Boker Tov les Koulam, et voilà, c'est parti pour notre étude du vendredi matin sur la Parashat HaShavua en version un petit peu plus longue que celle qu'on a eue hier. Alors c'est parti, Parashat Chaye Sara. La Parashat de Chaye Sara, les amis, eh bien tout de suite on va se poser the question. Ben évidemment, vous savez quand on, ça on l'a déjà dit et on l'a redit et re-redit, mais il faut encore en parler. Quand tu appelles le titre d'un livre, tu choisis le titre d'un film, l'homme échané, il est censé eh bien, représenter un minimum ce qu'il y a dans le bouquin. Et là, eh bien, le titre donné à la paracha, mais ce n'est pas seulement le titre donné par nos sages, c'est l'ouverture de la paracha, Vayu Chaye Sara. On s'attend, et c'est naturel, de parler de la vie de Sarah. Eh bien non, on ne va pas du tout nous parler de sa vie, on va nous parler uniquement de sa mort. Alors là, les amis, la question, elle est simple. Tu vas me dire peut-être que Abraham va faire un grand éloge funèbre à Sarah, à sa bien-aimée. À ce moment-là, je peux comprendre que même si on nous parle de sa mort, eh bien, en fait, on va nous retracer toute sa vie. Sauf que, eh bien, c'est absolument pas le cas. Ce n'est absolument pas de ça que va parler la paracha. On va à aucun moment parler de ce que Sarah a fait. Et d'où la question maintenant qui retentit. Mais alors, pourquoi cette paracha s'appelle Chaye Sara? Quel est le but de cette paracha? Si vous réfléchissez et qu'on regarde ce qui s'est passé derrière, on se rappelle de la paracha de Lech Lecha où Akadosh Baruch Hu a présenté le projet qu'il voulait réaliser à Abraham. Dans la paracha de Vayera, on a vu la semaine dernière comment est-ce que Abraham a appris la composante qui lui manquait pour réaliser le projet, Midat Hadin, et a intégré Yitzhak. Quel est le propos de la paracha de Chaye Sara? Eh bien, le propos de la paracha de Chaye Sara et de maintenant commencer à réaliser le projet divin. Comment on va faire? Vayu Chaye Sara Bemet. Vayu Chaye Sara, et la Torah nous dit tout de suite, et je prends le verset, la Torah nous dit tout de suite, Vayam, Vatam, voilà, et voilà, je ne suis pas préparé, voilà, Vatamot Sara Bekiriat Arba Ichevron Beretz Kenan, Vavo Avram Ispot de Sara Velifkota. Et voilà. C'est tout ce qu'on va nous dire du espèce d'Abraham, a priori. On ne va rien nous enseigner de plus. Et ça paraît quand même bizarre. Quoi, Abraham n'a rien à dire à sa femme, n'a rien à dire au monde sur sa femme. Et en fait, toute la première partie de la paracha nous apprend comment Abraham va acquérir, mais Maharat Marpella, le terrain pour enterrer Sarah. Eh bien, les amis, je vous le dis, il s'agit ici du plus bel éloge funèbre possible pour Sarah. Car il faut savoir qui est Sarah. Vayu Shene Chaye Sarah. On dit Vayu Chaye Sarah, mais Ashana Veshrim Shana Vesheva Shanim, Shene Chaye Sarah. Mais c'est Shene. Les années de la vie de Sarah, bien sûr, mais on peut comprendre également Shene. Il y en a deux. Il y a eu la vie de Sarai et il y a eu la vie de Sarah. Sarai a vécu durant près de 90 ans. Alors que Sarah a vécu 37 ans lorsqu'elle a mis au monde Yitzhak. Il y a donc deux vies. L'une où elle n'a pas pu se réaliser et une où elle s'est complètement réalisée. Lorsque Sarai, et je vous le rappelle, nous l'avions déjà peut-être évoqué, elle est bridée. Elle est bridée par qui ? Par Abraham. Rappelez-vous, Abraham n'est pas né Abraham. Abraham est né Avram. Et à un moment donné de son histoire, Dieu lui a dit, je vais te changer ton nom et maintenant tu ne seras plus Avram, mais tu seras Abraham. Au même moment, il y a également un changement chez Sarah. Mais ce n'est pas le même. Car Dieu dit à Abraham, à propos de Sarah, qu'est-ce qu'il lui dit? Eh bien, il lui dit, ויאמר אלוהים אל אברהם, שרי אשתך, לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה. Dieu ne fait pas un changement de nom à Sarah. Il dit à Abraham, mais enfin, arrête de l'appeler Sarai, car elle s'appelle Sarah. Elle s'est toujours appelée Sarah, mais c'est toi qui l'appelais Sarai. Sarai, c'est ma Sarah à moi. Comment tu veux qu'elle puisse mettre au monde le fils qui va réaliser le projet universel du judaïsme, si tu la limites à Sarai Sheli. La reine, tant que tu l'appelles Sarai, elle ne peut pas avoir de fils. Arrête de l'appeler Sarai, elle s'appelle Sarah. En d'autres termes, Sarah, elle a vécu deux vies. Quand elle était Sarai et quand elle est devenue Sarah. Ou redevenue, plus exactement, Sarah. Et quel est donc le projet de Sarah? La vie de Sarah, c'est quoi? Eh bien, c'est deux choses. Avoir un fils, la descendance que Dieu a promise à Abraham, et faire de ce fils l'héritier de la terre d'Israël. C'est pourquoi son grand combat la semaine dernière sera de dire à Abraham, « Garesh et ben ha'amazot, ki lo yirash ben ha'amazim benim mitzrak. » Le grand combat de Sarah était de dire, « Il va falloir renvoyer Ishmaël, car cet enfant-là, l'enfant de la servante, n'héritera pas avec mon fils, avec Yitzhak. » Vous comprenez de quoi on est en train de parler? Le combat de la vie de Sarah, c'est quoi? C'est pas seulement la descendance, mais c'est que cette descendance s'implante et hérite de la terre d'Israël. Voilà tout le combat de Sarah. Et on sait à quel point c'est dur pour Abraham. Très dur pour Abraham de prendre ses racines en Eretz Israël. Bichlal, de prendre des racines quelque part. Abraham est quelqu'un qui a envie, eh bien, de voler, propager le nom divin partout. Le problème, il est que si tu n'as pas de centralité, tu ne peux pas avoir un message qui est le tien. Le prophète Ishaïa nous dira que c'est qui mitzion tetzé Torah ou dvar Hashem Yerushalayim, à tel point que c'est les goyim qui diront cette phrase-là, comprenant que ce n'est que par la structure qui forme l'âme Israël qu'il peut avoir un rayonnement sur le monde. Pour Abraham, c'est très compliqué. On se rappelle, après la guerre contre les quatre rois babyloniens, que tous les chefs de la région se sont réunis, Be'emek HaMelech, Benachal Kidron, et ont voulu faire de Abraham le roi de la région. Abraham aurait pu être le chef politique d'Israël depuis longtemps. Il a refusé. Abraham a eu du mal à accepter Yitzhak, maintenant c'est fait. Mais Abraham a toujours du mal à accepter qu'il va devoir maintenant s'implanter en terre d'Israël. Sarah venant à mourir, Abraham n'a plus le choix. Abraham va maintenant être obligé de s'implanter en terre d'Israël. En fait, pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Sarai et Sarah, cette paracha? Eh bien, parce que la mort de Sarah va être la réussite de son projet de vie. J'ai envie de dire, entre guillemets, grâce à sa mort, Abraham n'aura plus le choix. Il va devoir s'implanter en terre d'Israël pour y enterrer Sarah. Et voilà toute la discussion. Abraham se trouve devant les gens de Hebron, les Benechet, et lui dit, leur dit, « Ger vetoshav anochi imachem. » Mais c'est « Ger vetoshav ». Ger, ça veut dire un résident temporaire, étranger. Toshav, c'est un résident permanent. Il dit, Abraham, ni ger. Aval anitzarich liot toshav. Ger vetoshav anochi imachem. Au-delà de cela, il dira Chazal, אם אני גר בעולם הזה אני תושב אמו ואם אני תושב בעולם הזה אני גר אמו. Si je me sens comme étant un résident permanent de ce monde, alors je ne suis qu'un étranger par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et si je me sens être étranger dans ce monde, alors je suis un résident permanent à côté d'Akadosh Baruch Hu. Abraham veut donc acheter un terrain pour y enterrer Sarah. Et c'est là que tout va se jouer. Regardez le texte. Ger vetoshav anochi imachem, tenouli, ça veut dire donnez-moi un cadeau, ça veut dire vendez-moi. Tenouli achuzat kever imachem, vekbera meti milefanai. Abraham veut acheter quoi? Il veut acheter achuzat kever. Pourquoi faire? Pour y enterrer Sarah. Les choses sont posées. Alors qu'est-ce qu'il veut? Il veut acheter un truc. Et les gens lui répondent, mais non, pas du tout. Shmaoni, Adoni, Nasi Elohim, Atabetochenu, Bemifrar, Kevarenu, Kevor et Metecha. Ishmimenu et Kivro, Lo Yichle Mimcha et Mikvor Metecha. Tous les gens lui répondent, Abraham, c'est quelqu'un de connu. Il dit, mais attends, mais c'est un honneur. Au contraire, Abraham, tous ici, on est prêts à te donner une partie de nos sépultures pour que tu enterres ton mort. En d'autres termes, on n'accepte pas qu'Abraham ait sa sépulture. Ils sont prêts à le laisser enterrer qui ils veulent, mais ils ne sont pas prêts à lui vendre quelque chose. Et Abraham répond, Vayakom Abraham, Veshtachou la Amaret, Zebnechet, Vayedabel, Itam, Lemor. Im yesh et nafshechem likbor et meti milefanai. Si vous êtes, si vous voulez m'aider, laissez-moi rencontrer Ephron ben Tsochar. Qui est ce Ephron ben Tsochar? Ephron, c'est Afar Katan, Afaron. Tsochar, c'est ce qui est lumineux. Ce Ephron ben Tsochar est le dernier descendant qui garde l'entrée de Maharat Amarpela. Maharat Amarpela dans laquelle a été enterré Adam Vechava. Ephron le sait. Il est celui qui est le descendant du Afar, Mina Afar, Mina Adama, de là où a été créé Adam. D'un autre côté, il est donc le descendant de Ephron. Il est l'héritier de cette lumière. Il sait très bien qui est enterré là-bas à Maharat Amarpela. Abraham le sait aussi d'après le Midrash, lorsqu'il a voulu donner à manger aux anges, eh bien, il y a un petit agneau, un veau, qui s'est enfui et qui a couru jusqu'à Hébron, jusqu'à la Maharat Amarpela. Abraham l'a suivi. Il a vu là-bas la lumière du Gan Eden. Et il a vu que Adam et Chava étaient enterrés là-bas. Et donc, il veut aller acheter la Maharat Amarpela. Regardez ce qu'il dit. Veiten li et Maharat Amarpela asher lo, asher bikte sadeu bekesef male. C'est clair, Abraham veut acheter une tombe, une sépulture. Regardez la réponse des Bénéchet. Il lui dit, V'adoni, Shemaeni, Asade natatilach, V'ameara shirbo lecha natatia. Ephron veut lui vendre son champ dans lequel il y a la Mehara. Abraham avait pourtant dit, je ne veux pas le champ, je veux que la Mehara. Mais quel est ce débat? Est-ce qu'on achète la caverne? Est-ce qu'on achète le champ avec la caverne? La question est évidente. Vous savez, dans la halakha, imaginons, je fais un cadeau à ma fille. Je lui fais un cadeau, je lui achète, je ne sais pas moi, un collier magnifique en diamant avec marqué son nom « Je t'aime ma chérie » et son numéro de Tehoudat Zehout. Et je l'emmène en tioul, en hélicoptère, au-dessus d'Eretz Israël. Ah, ma fille, je suis sûr qu'elle aimerait bien. Elle me regarde, elle me dit « Où ?» Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? L'hélicoptère se penche, le collier tombe en plein dans l'eau, dans la Méditerranée, mais dans un endroit très spécial où il y a des requins mutants laser. Impossible d'aller chercher le collier. Là, ma fille est en larmes, elle n'en peut plus. On rentre à l'aéroport et elle est dégoûtée. Mais sauf que le pilote de l'hélicoptère avait justement mis au point un sous-marin spécial anti-requin mutant laser. Et il va chercher le collier dans l'eau. Et le lendemain, il le met en vente. Et on passe avec ma fille et on voit le collier. Et ma fille, elle dit, mais c'est à moi. Il y a mon nom, il y a marqué ma Tehoudat Zehout. Ah ben, Alpi Alakha, c'est plus à toi. Désolé, ma chérie. Pourquoi? Eh bien, parce que tu as fait Yéhouch. C'est-à-dire que tu as abandonné l'idée de pouvoir le posséder. Ce n'est donc plus à toi. Dans le monde occidental, ce qui détermine la possession, c'est ton ticket de caisse. Est-ce que tu as ta Kabbalah? Mais dans la Alakha, ce qui détermine la possession d'un objet, c'est ce qu'on en fait. Quand on se pose la question, mais pourquoi la première acquisition en terre d'Israël, le premier acquis du peuple juif en terre d'Israël, c'est une tombe? On aurait pu penser à une villa, à un champ, à, je ne sais pas moi, à une source. Un acquis matériel. Ce qui détermine le lien et la possession, c'est ce qu'on en fait. Si on le laisse à l'abandon, ce n'est plus à nous. Imaginez ce que ça veut dire. Si le premier acquis du peuple juif en terre d'Israël, qui va déterminer notre lien, avait été un champ ou autre chose, eh bien, lorsque Amisraël part en exil et qu'il abandonne son champ, c'est plus à nous. Le premier acquis du peuple juif, c'est une tombe, une sépulture à Rabotai. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que qu'est-ce qu'on demande au mec de la sépulture de faire? Rien du tout. Le simple fait qu'elle soit là, ça détermine le lien. En d'autres termes, le fait que le premier acquis du peuple juif en terre d'Israël soit une tombe et pas un champ va déterminer pour Abraham, Yitzhak et toutes les générations que le lien qui va unir Amisraël à la terre d'Israël est aussi intrinsèque que celui qui unit, eh bien, le défunt à la tombe dans laquelle il est. Ainsi, en achetant Me'arat Amarpela, Abraham cristallise le lien entre Am Israël et la terre d'Israël. Zéou, Sarah peut enfin reposer en paix. La vie de Sarah a enfin trouvé sa réalisation. Maintenant, une fois que Sarah a été enterrée, une fois que l'implantation et le lien avec la terre d'Israël est mise en place par Abraham, ça y est, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Eh bien, c'est très simple. Maintenant qu'Abraham a réglé la question de l'implantation, il va falloir maintenant régler la question quoi ? Eh bien, la question de la succession. Et le chapitre 24 commence en nous disant la chose suivante. « V'Avraham zaken baba yamim » Dans le chapitre 24, « V'Avraham zaken baba yamim v'Hashem berach et Avraham bakol » Alors, ça c'est la partie que j'avais envoyée en petit hier. Mais effectivement, « V'Hashem berach et Avraham bakol » C'est quoi bakol ? On avait expliqué. C'est que dans tous les cas, il n'avait pas de fille. Un avis, celui de Rashi nous dit qu'il avait un fils. Un avis du Talmud nous dit qu'il n'avait pas de fille. Et un autre avis nous dit qu'il avait une bat. Mais le Ramban nous dit, ne crois pas que ça veut dire qu'il avait une fille, ça veut dire qu'il avait une qualité bat en termes de mida qui s'appelle kolelut, d'être entier, complet. Pourquoi c'est important qu'Abraham n'ait pas de fille ? Moi, j'en ai trois des filles, c'est fantastique. Mais parce que si Abraham a une fille, il faut la marier. Or, à l'époque, l'identité de la famille, de la nation, passe par le père et uniquement par le père. Ainsi donc, si Abraham a une fille, dans la construction identitaire du peuple juif, on va devoir mêler une identité extérieure. C'est impossible. Le fait qu'Abraham n'ait pas de fille nous permet à nous aujourd'hui d'avoir des filles. Par qui va passer l'enseignement de l'éducation d'identité. Aujourd'hui, l'identité d'Israël passe par les mamans d'Israël qui vont donner à manger à leur petit bébé et ils transmettent dans chaque cuillère de soupe l'amour et l'appartenance du peuple juif et de la terre d'Israël. Donc Abraham n'a pas de fille, mais il a un fils. Et maintenant, il faut le marier. Et maintenant, il va falloir le marier. Et donc, toute la paracha va nous expliquer comment on va chercher une fille. Comment on va chercher la femme de Yitzhak ? Comment on va aller trouver Rivka ? Et la Torah nous emmène dans une réalité incroyable. Pour la première fois, le narrateur, Dieu, la Torah, nous explique que Rivka était belle. Incroyable ! On nous dit que cette femme est magnifique. On va nous le dire clairement. Vanehara tovat mare meod. Tovat mare meod. Pourquoi on a besoin de me dire ça ? Vous allez me dire, non, mais Abraham, il avait dit à Sarah, inena yadati ki shayefat mare at. Nachon, mais ça c'était Abraham qui parle à Sarah. Encore heureux que le mari trouve sa femme belle. Là, c'est le narrateur qui nous dit cela. Comme en nous présentant une réalité. Pourquoi est-ce important de savoir que Rivka était belle ? C'est pas la seule. Il va y avoir plein de femmes dans le Tanakh où on va nous dire qu'elles étaient belles. Les mazeh chashuv. Les amis. Les mazeh chashuv. On vient de dire qu'Abraham avait, et c'est l'héritage du peuple juif, cette dimension de kolel, de bakol. Si une femme est belle, ça doit vouloir dire qu'elle est belle aussi à l'intérieur. Je m'explique. Aujourd'hui, dans notre monde, à cause de la destruction du premier temple, à cause de cette destruction qui fait la séparation entre l'intériorité et l'extériorité, alors on peut trouver des gens beaux et pourris, et des gens moches et tzadiques. Mais dans l'idéal du judaïsme, Sheker Achen, Vevel Ayofi, dira Shlomo HaMelech. Mais c'est Sheker Achen. Achen, c'est bemet sheker. La grâce, c'est pas beau. Quand on dit de quelqu'un, ouais, il est mignon, ça veut dire qu'il est pas beau. Sinon, on dirait qu'il est beau. Nous dit Shlomo, Sheker Achen. Achen, Zemilachon Chinam. Grâce, gratuit. T'es pas vraiment belle, mais t'as quelque chose. Ayofi ou lo Sheker. Qu'est-ce qu'on dit dans Eshet Ra'il?
Sheker Achen.
C'est ça que tu dis à ta femme? Elle s'est préparée pendant 3 heures, elle est magnifique, et toi tu lui dis, chérie, la grâce n'est que du mensonge. Et puis tu sais, la beauté ce n'est que la fumée qui sort de ta bouche. C'est ça que tu dis? Oui. Mais de quoi on parle? Hevel ayofi. Hevel, comme j'ai dit, c'est la fumée. La fumée qui sort de la bouche, la fumée qui sort de la casserole quand tu es en train de cuire quelque chose. Mais dites-moi, si vous mettez une casserole sur le feu sans rien dedans, il n'y aura pas de fumée. Bon, elle va exploser, mais il n'y aura pas de fumée. On a l'habitude de dire il n'y a pas de fumée sans feu. Mais je dirais non. Il n'y a pas de fumée sans quelque chose à l'intérieur qui cuit. La fumée qui sort de la casserole, c'est l'expression extérieure de ce qu'il y a dans la casserole. L'expression extérieure de ce qu'il y a dans la casserole. En d'autres termes, si une femme est belle à l'extérieur, ça doit normalement être le symbole qu'elle est belle à l'intérieur. Hevel ayofi, isha yirat Hashem et titalal. Ça va ensemble. C'est-à-dire que pourquoi la Torah nous dit que Sarah est là, que Rivka est belle? Pour que tu saches qu'elle est tzadika. Il y a cette osmose entre Toho, l'intérieur, et Baro, qu'est l'extérieur. Ça, c'est l'idéal. Et c'est ça qu'on va rechercher pour Yitzhak, cette dimension de Klalout. Alors, très bien, mais il faut aussi autre chose. Midata Chesed. Le Chesed de Rivka, qui va compléter le Din de Yitzhak, comme le Din de Sarah, qui complétait le Chesed d'Abraham. Comment est-ce qu'on va vérifier que Rivka est Midata Chesed? Eh oui, Eliezer va nous dire, si elle me dit, je te donnerai à boire à toi et à tes chameaux, et un chameau, ça boit 40 litres. Et il y en a 10. Bekitso. Très bien. Midata Chesed, pour compléter le din, Kolelout, à Kol Besed. Mais il y a une autre chose. Une autre chose fondamentale. Alors, on va reconnaître Rivka, Seder, et après arrive le moment où on concrétise le Shidduch. Les amis, dans notre parasha, nous apprenons les bases de la Khatuna, les bases de l'union d'après le judaïsme. Et vous savez quoi? Vous savez qui est notre grand maître pour nous apprendre les lois du mariage? Eh bien, peut-être celui qui est le plus grand ennemi du peuple juif. Le frère de Rivka. Celui qui a complètement annulé l'identité d'Israël. Puisqu'il s'appelle Lavan à Arami. Il était hébreu, mais il est devenu complètement araméen. Lavan, on le connaît dans la tradition juive. C'est celui dans la Haggadah de Pessah qui fait passer Pharaon pour un petit joueur. D'accord, qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah? C'est Ulmad ma bikesh Lavan Arami, chez Paro, lo gezar ela la sarim. Et Lavan bikesh la akor et akol. On dit, Pharaon c'était un petit joueur, il voulait tuer que les hommes. Lavan, il voulait éradiquer et déraciner tout. Lavan tout d'un coup va nous apprendre les lois du mariage. Par exemple, vous savez qu'on n'a pas le droit de marier une jeune fille sans lui demander son approbation. D'où ça vient? Ça vient de Lavan, qui dit « Bon nikra la ne'ara v'nishala et pia ». Maintenant, on va demander à Rivka ce qu'elle en pense. Mais le mieux dans tout ça, nous dit le Talmud, « Mais Hachem ishal ish ». Que le shidour, l'union, les deux neshamot qui doivent se lier, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Ah oui, nous, on peut essayer de les mettre en contact, inviter un Shabbat, faire des Shabbats pleins, tout ce que tu veux. Mais au final, d'où ça vient, d'où on sait dans la Torah que la zivoug, ça vient d'Akadosh Baruch Hu? ויאמרו לבן ובתואל, מהשם יצא הדבר. C'est à Lavan qui nous dit, ça sort de Dieu ce que tu fais. Pour parler de l'union entre Rivka et Yitzhak. De Lavan ? Lavan ? Une dernière chose incroyable. Birkata Irusin, Rabotai. Birkata Irusin. D'où on l'apprend ? Vous savez que si une femme n'a pas reçu les brachot des Irusin, elle n'est pas mariée, elle est nida, elle est assoura. Nous dira le Talmud dans Masechet Kala, Kmo she isha lelot vila assoura kenida, kala belo bracha assoura kenida. C'est quoi cette bracha des Yerusin? D'où on l'apprend? Vayevarechu et Rivka. Vayevarechu et Rivka, c'est Reb Lavan. Vaivarechu et Rivka, vous savez ce qu'il a fait comme bracha? Dans la Torah, il est marqué Eil alfe revava veirash sarech eshar rotsonav. Le Talmud, qu'est-ce qu'il a dit Lavan? Niba velo yadam aniba. Il a prophétisé sans savoir ce qu'il disait. Et il a dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al ha'arayot ve'asar lanu et ha'arusot ve'itir lanu et ha'nesuot lanu al yedei chupa ve'kidushin. Baruch ata Hashem Mekadesh Amo Israël à Dérouba avec Lushim. Comment est-ce qu'on peut apprendre de Lavan qui est tellement anti-Kdushat Israël, les éléments même de la fond, du fondement de Kdushat Israël? Eh bien, parce que seul quelqu'un qui nous connaît parfaitement peut s'opposer à nous. Très souvent, ce sont nos ennemis qui savent mettre le doigt sur qui on est. Effectivement, les grands ennemis du peuple juif, qu'ils viennent au niveau des racines du Ham Israël ou pas, comme Torquemada, comme Lavan, ou pas, eh bien, sont les personnages qui vont le mieux pouvoir cerner ce qui représente pour eux un danger, ce qui en vérité représente pour le monde une bénédiction. Le chidour de Rivka et de Yitzhak est au centre de notre paracha. Pourquoi ? Eh bien, parce que si le début de la paracha nous parle de l'héritage, de la réalisation du projet, il faut s'implanter en terre d'Israël pour avoir un centre. Maintenant, il va falloir déterminer, on a la descendance, on a Yitzhak, mais il faut que cette descendance se perpétue. Il faut donc maintenant que Yitzhak continue. Et pour ça, on va poser les bases de ce qui va amener à la Kedusha propre du peuple juif. Abraham et Sarah, on ne sait pas trop comment ils se sont mariés. Sauf Parashat Noach, on ne sait pas trop. Maintenant que le projet est mis en place, chaque mariage représente la réalisation du projet. C'est pour ça que lorsque un couple se marie, on dit « Mishe bana bait echad beYisrael, bana echad michomot Yerushalayim ». Celui qui construit une maison en Israël, un couple, c'est comme s'il construisait les murailles de Jérusalem. Comme vous regardez les Shiva Brachot, il ne s'agit pas seulement de la simcha du Khatan et de la Kala. Il s'agit de la simcha individuelle, de la simcha de l'humanité, de la simcha de Bniyat Yerushalayim. Botaï, c'est de cela qu'on parle. L'implantation en terre d'Israël, Kfura Tzara. La continuité de la descendance dans la Kedusha, Yitzhak Verivka. Sauf que pour arriver à la Kedusha, c'est-à-dire pour comprendre et arriver à transmettre l'importance de la vie de la Kedusha, eh bien, il faut deux choses. Vous savez, la Kedusha dans le peuple juif nous explique le Rav Kook dans la Higueret Takana, dans la lettre 555, que la Kedusha dans le peuple juif est double. Il y a la Kedusha intrinsèque qui est reçue parce que tu es l'enfant de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais il y a aussi une kedusha qui dépend de mes actions. Or, le Rav Kook nous dit la kedusha intrinsèque, elle est là, mais elle ne se dévoile que par l'intermédiaire des actions. Et donc, si le mariage de Rivka et de Yitzhak montre cette kedusha intrinsèque, c'est celle qu'il faut dévoiler pendant l'acte du mariage et pendant Bichlal, la transmission de l'identité. elle ne peut se révéler que par la Kedusha des actions, ce qu'on va appeler nous aujourd'hui Torah ou Mitzvot. La reine, on ne pouvait pas terminer la paracha sans les prémices de l'enseignement de la Torah. La paracha se termine après que Yitzhak et Rivka se soient trouvés, ça y est. Ben, qu'est-ce qu'on nous raconte ? On nous raconte qu'Avraham se remarie. Allez, Khatunat Skenim, un nouveau mariage sympathique. Quoi ? Oui, Avraham va se marier avec qui ? Ketura. Non, ça, je vais vous dire, c'est Agar qui a fait Tchouba. Bon, c'est sympa. Et d'ailleurs, on va savoir que de Ketura, il va avoir 6 enfants. Sympa. Mais bon, c'est important de savoir ça. Avraham n'est plus sur l'avant-scène de l'histoire maintenant. Le rôle principal maintenant, c'est Yitzhak. Donc, pourquoi c'est important de savoir qu'Avraham se remarie avec Ketura ? D'autant plus qu'après, ses enfants avec Ketura, il va les envoyer au loin. Ils ne vont pas avoir d'influence, sauf un. Il y en a un qui est fondamental. L'un des enfants d'Avraham et Ketura. Iné. Yosef Avraham veikar isha ushma Ketura. Vateled loet Zimran. Connais pas. Yokshan. Connais pas. Medan. Connais pas. Ishbak. Connais pas. Shuach. Connais pas. Mais le quatrième fils entre Medan et Ishbak, celui-là, je le connais bien. Midian. Midian ? Midian, d'accord. Midian, c'est Yitro. Yitro, c'est le maître de Moshe. Be Midian Nidgadel. Moshe a grandi à Midian. Moshe a appris à être prophète à Midian. À Midian, Moshe a appris la Torah d'Abraham, qui lui a permis de recevoir Torah de Moshe. Nous avons donc ici les prémices de ce qui va amener la Torah de Moshe, qui nous permet de dévoiler, par l'intermédiaire de nos actions, la Kedusha profonde, qui est celle de l'appartenance à l'identité d'Israël, qui, une fois sur la terre d'Israël, peut devenir une bracha pour toute l'humanité. Shabbat shalom, les koulam.